Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le nouvelliste. Au programme, lutte contre l'inflation et le milieu communautaire, lui. Cuba se dépeuple comme jamais et plaidoyer pour le droit de l'éducation en Haïti. Bonne écoute!
Lutte contre l'inflation et le milieu communautaire, lui. Un texte d'opinion de Paul Dalphon, paru le 13 décembre 2022 dans la presse. Paul Dalphon est directrice générale du regroupement des Auberges du Cœur du Québec. Avec sa plus récente mise à jour économique, le gouvernement du Québec a raté une belle occasion de soutenir le milieu communautaire et les jeunes plus vulnérables. Alors que l'inflation est au cœur de ce mini-budget et que des millions de dollars ont été annoncés pour en limiter les impacts, les organismes communautaires et les jeunes restent encore au banc des oubliés. Dans les Auberges du Cœur, des maisons d'hébergement jeunesse communautaire ouvertes 24/7, la situation financière est précaire. Ces milieux de vie sont reconnus pour être des lieux d'accompagnement, d'écoute et d'affiliation lorsque les temps se font trop durs. Malheureusement, en plus du manque de financement de base des Auberges du Cœur, qui atteint près de 21 millions de dollars annuellement par rapport aux besoins, leur fonctionnement est fragilisé par l'inflation et la pénurie de personnel. La facture d'épicerie, à elle seule, a un impact direct sur leur budget de fonctionnement. Cette même facture qui affecte les jeunes qui ont de la difficulté à boucler leur fin de mois et qui viendront, en plus grand nombre, chercher de l'aide alimentaire à l'auberge ou dans les banques alimentaires. Rappelons, alors qu'une crise du logement sévit déjà depuis longtemps, que l'inflation vient toucher directement la capacité des jeunes à se loger décemment et à subvenir à leurs besoins de base. Les Auberges du Cœur sont davantage sollicitées et peinent à répondre à la demande. Cela affecte aussi les durées de séjour d'hébergement, puisque les jeunes restent plus longtemps, sachant qu'il est difficile financièrement de voler de ses propres ailes, freinant le développement de leur autonomie, non par manque de volonté, mais par manque de possibilités. Les organismes sont ainsi plus limités dans leur capacité d'accueil et leurs activités, mais également dans l'accompagnement offert aux jeunes afin de les soutenir dans la transition à la vie adulte et la réalisation de leurs projets. Alors que bien des auberges ne peuvent avoir qu'une seule personne sur le plancher, comment accompagner les jeunes qui souhaitent prendre leur vie en main, améliorer leur santé, se loger adéquatement, retourner aux études ou encore se trouver un emploi? Le constat est évident. Le coût de la vie et le sous-financement des maisons d'hébergement jeunesse communautaire mettent en situation de précarité la mission de ces dernières. Cela contribue à maintenir les jeunes en situation d'itinérance, à freiner leur réinsertion sociale et leur participation à la vie citoyenne. Pis encore, davantage de services de santé et de services sociaux sont utilisés, engendrant un coût plutôt qu'une richesse collective. Un chèque de 600 $ vient simplement mettre un diachylon sur une blessure bien trop grande, mais il n'a aucune portée structurante afin d'améliorer les conditions de vie des jeunes plus vulnérables. Il y a présentement dans les Auberges du Cœur, les centres jeunesse et même dans la rue, des milliers d'ados et de jeunes adultes ayant une vivacité d'esprit et une résilience pouvant contribuer à la société de demain, si seulement on leur donnait les moyens de se développer à leur plein potentiel. Néanmoins, ces jeunes sont encore relégués au second plan, tout comme les ressources communautaires qui œuvrent auprès de ces populations. Dans le contexte actuel, le Québec peut-il vraiment se priver, ne serait-ce que d'un seul jeune pour contribuer à la collectivité? Poser la question, c'est y répondre. Il est grand temps de soutenir les organismes communautaires qui accompagnent nos jeunes les plus vulnérables. Le Québec ne peut se permettre de les perdre. Nous pressons donc les élus à agir dès maintenant. C'était lutte contre l'inflation et le milieu communautaire, lui. Un texte d'opinion de Paul Dalphon paru le 13 décembre 2022 dans la presse. Cuba se dépeuple comme jamais. Un texte d'Ed Augustine et Frances Robles du New York Times paru le 17 décembre 2022 dans la presse. L'exode vers les États-Unis, le plus important à ce jour, menace l'avenir du pays. Baracoa, Cuba, Roger Garcia Ordaz ne cache pas ses nombreuses tentatives de fuite. Il a essayé de quitter Cuba 11 fois sur des bateaux faits de bois, de mousse, de polystyrène et de résine. Et il a un tatouage pour chaque tentative ratée, dont 3 accidents de bateau et 8 fois où il a été récupéré en mer par les gardes-côtes américains et renvoyé chez lui. Des centaines d'embarcations artisanales et bancales ont quitté cette année les rives de Baracoa, un village de pêcheurs situé à l'ouest de la Havane, où vit Roger Garcia Ordaz, 34 ans. « Bien sûr, je vais continuer à me lancer sur la mer jusqu'à ce que j'y arrive », a-t-il déclaré. « Ou si la mer veut prendre ma vie, qu'il en soit ainsi. » Conditions de vie précaires. Les conditions de vie à Cuba, sous le régime communiste, ont longtemps été précaires. Mais aujourd'hui, l'aggravation de la pauvreté et du désespoir a déclenché le plus grand exode de la nation insulaire des Caraïbes depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro il y a plus d'un demi-siècle. Le pays a été frappé par un double coup de poing. Le durcissement des sanctions américaines et la pandémie de COVID-19 qui a éviscéré l'un des piliers de Cuba, l'industrie du tourisme. Les denrées alimentaires sont devenues encore plus rares et plus chères. Les files d'attente dans les pharmacies au stock limité commencent avant l'aube et des millions de personnes subissent quotidiennement des coupures de courant pendant des heures. Au cours de l'année écoulée, près de 250 000 Cubains, soit plus de 2 % des 11 millions d'habitants de l'île, ont migré vers les États-Unis, la plupart d'entre eux arrivant à la frontière sud par voie terrestre, selon les données du gouvernement américain. Même pour une nation connue pour ses exodes massifs, la vague actuelle est remarquable, plus importante que l'exode de Mariel en 1980 et la crise des radeaux cubains en 1994 réunis, jusqu'à récemment les deux plus grands événements migratoires de l'île. Mais alors que ces mouvements ont culminé en l'espace d'un an, les experts estiment que cette migration, qui compare à un exode en temps de guerre, n'a pas de fin en vue et menace la stabilité d'un pays dont la population est déjà l'une des plus âgées de l'hémisphère. Un défi pour Washington. L'avalanche de départ de Cubains est également devenue un défi pour les États-Unis. Désormais l'une des plus importantes sources de migrants après le Mexique, Cuba est devenu l'un des principaux responsables de l'afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine, ce qui a constitué un handicap politique majeur pour le président Joe Biden et que l'administration considère comme un grave problème de sécurité nationale. Les chiffres pour Cuba sont historiques et tout le monde le reconnaît, a déclaré un haut fonctionnaire du Département d'État américain qui n'était pas autorisé à parler publiquement de cette question. Cela dit, il n'y a jamais eu autant de personnes qui migrent dans le monde et cette tendance se vérifie certainement dans notre hémisphère aussi. De nombreux experts affirment que la politique américaine envers l'île contribue à alimenter la crise migratoire même que l'administration s'efforce aujourd'hui de résoudre. Pour séduire les électeurs cubano-américains du sud de la Floride, l'administration Trump a écarté la politique d'engagement du président Barack Obama, qui comprenait le rétablissement des relations diplomatiques et l'augmentation des voyages vers l'île. Le président Donald Trump l'a remplacé par une campagne de pression maximale qui a renforcé les sanctions et limité sévèrement les sommes d'argent liquide que les Cubains pouvaient recevoir de leur famille aux États-Unis, une source clé de revenus. Si vous dévastez un pays à 145 km de votre frontière avec des sanctions, les gens viendront à votre frontière à la recherche de débouchés économiques, a déclaré Ben Rhodes, qui a servi de conseiller adjoint à la sécurité nationale sous Obama et a été la personne de référence pour les discussions avec Cuba. Quelques assouplissements. Bien qu'une levée significative des sanctions ne soit toujours pas envisagée, les deux gouvernements s'efforcent de faire face à l'extraordinaire vague de migration. Washington a récemment annoncé qu'elle allait rétablir les services consulaires à La Havane en janvier 2022 et délivrer au moins 20 000 visas à des Cubains en 2023, conformément aux accords de longue date entre les deux nations, ce qui, espèrent les responsables, dissuadera certaines personnes d'essayer d'effectuer des voyages dangereux vers les États-Unis. La Havane a accepté de recommencer à recevoir des vols en provenance des États-Unis pour les Cubains expulsés, une autre mesure visant à décourager la migration. Le gouvernement Biden a également supprimé le plafond des sommes que les Cubano-Américains sont autorisés à envoyer à leurs proches et a autorisé une société américaine à traiter les virements électroniques vers Cuba. La chute libre de Cuba a été accélérée par la pandémie. Au cours des trois dernières années, les réserves financières de Cuba se sont amenuisées et le pays a eu du mal à remplir les rayons de ses magasins. Les importations, principalement de nourriture et de carburant, ont diminué de moitié. La situation est si grave que la compagnie d'électricité du gouvernement s'est vantée récemment que le service électrique avait fonctionné sans interruption ce jour-là pendant 13 heures et 13 minutes. Nous poursuivons la lecture de « Cuba se dépeuple comme jamais », un texte d'Ed Augustine et Frances Robles du New York Times paru le 17 décembre 2022 dans la presse. Manifestation monstre. En 2021, lassé par le déclin économique et le manque de liberté aggravé par le confinement de la COVID-19, des dizaines de milliers de Cubains sont descendus dans la rue lors des plus grandes manifestations anti-gouvernementales depuis des décennies. Une répression a suivi et près de 700 personnes étaient toujours emprisonnées à la fin de 2022, selon un groupe cubain de défense des droits de l'homme. Les Cubains les moins fortunés tentent de partir en construisant des bateaux de fortune, et au moins 100 sont morts en mer depuis 2020, selon les gardes-côtes américains. Ces derniers ont intercepté près de 3000 Cubains en mer rien qu'au cours des deux derniers mois. Mais de nos jours, la plupart des migrants cubains quittent l'île par avion, les parents à l'étranger payant souvent leur billet, un trajet suivi d'un difficile voyage terrestre. Il y a 10 ans, Cuba a supprimé l'obligation d'obtenir un visa de sortie pour quitter l'île par voie aérienne, mais il est toujours illégal de partir par voie maritime. Les vannes se sont ouvertes en 2021, lorsque le Nicaragua a cessé d'exiger un visa d'entrée pour les Cubains. Des dizaines de milliers de personnes ont vendu leurs maisons et leurs biens et se sont envolées pour Managua, la capitale du Nicaragua, payant des passeurs pour les aider à parcourir les plus de 2700 km par voie terrestre jusqu'à la frontière américaine. Avenir démographique sombre. Catherine Hansing, anthropologue à la City University de New York, qui est en congé sabbatique sur l'île, a fait remarquer que les chiffres de la migration en hausse ne tiennent pas compte des milliers de personnes qui sont parties vers d'autres pays, notamment la Serbie et la Russie. C'est la plus grande fuite quantitative et qualitative de cerveaux que ce pays ait jamais connue depuis la Révolution. Ellipse. Ce sont les meilleurs, les plus brillants et ceux qui ont le plus d'énergie, dit Catherine Hansing. Le départ de nombreux Cubains plus jeunes et en âge de travailler augure d'un avenir démographique sombre pour un pays où l'espérance de vie moyenne de 78 ans est plus élevée que dans le reste de la région, selon les experts. Le gouvernement peut déjà à peine se permettre de verser les maigres pensions dont dépend la population âgée du pays. L'hémorragie de Cubains hors de leur patrie est tout simplement dévastatrice, a déclaré Hélène Acosta-González, associée de recherche à la Florida International University. Cuba se dépeuple. Il y a quelques années à peine, l'avenir du pays semblait bien différent. L'administration Obama ayant assoupli les restrictions sur les voyages à Cuba, les touristes américains ont injecté des dollars dans le secteur privé naissant de l'île. Aujourd'hui, les voyages sont à nouveau sévèrement limités et des années de récession économique ont éteint les dernières lueurs d'optimisme de nombreux Cubains. De l'espoir? Johan Cruz Mendes, un chauffeur de taxi qui a essayé de partir trois fois, regarde la mer à Baracoa et explique pourquoi tant de bateaux qui bordaient autrefois les rives de la ville ont disparu, ainsi que leurs propriétaires. La dernière chose que l'on peut perdre, c'est l'espoir, et je pense qu'une grande partie de la population a perdu l'espoir, a déclaré Johan Cruz Mendes, racontant qu'il avait une fois réussi à parcourir 48 kilomètres en mer pour être contraint de faire demi-tour car trop de personnes à bord avaient le mal de mer et vomissaient. En mars 2022, l'homme de 41 ans a acheté un billet d'avion pour sa femme afin qu'elle se rende au Panama et a puisé dans ses économies pour payer 6 000 $ à un passeur afin qu'il la fasse passer aux États-Unis, où elle a demandé l'asile politique. Elle travaille dans un magasin de pièces automobiles à Houston. Dans les bois situés juste au-delà de la ville, les gens sont occupés à construire d'autres bateaux, à démonter les moteurs des voitures, des générateurs électriques et des tondeuses à gazon. Lorsque la mer est calme, ils attendent que le contingent local des gardes-côtes cubains termine son service, avant de transporter les embarcations de fortune sur leurs épaules à travers la ville et sur des rochers escarpés, avant de les descendre doucement dans l'eau. En mai, Yoel Toro du Vergel, 32 ans, et sa femme Yanari, enceinte de 5 mois de leur unique enfant, et 4 autres personnes sont parties au petit matin. Mais leur moteur est tombé en panne. Ils ont commencé à ramer, mais ont été interceptés par les gardes-côtes américains à quelques kilomètres des États-Unis et ramenés à Cuba, où Yoel Toro du Vergel essaie de s'en sortir en faisant des petits boulots. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait essayé de partir, il a ri. « Comment ça, pourquoi j'ai voulu partir ?» a-t-il dit. « Vous ne vivez pas dans la réalité cubaine ?» C'était « Cuba se dépeuple comme jamais », un texte d'Ed Augustine et Frances Robles, paru le 17 décembre 2022 dans la presse et initialement publié dans le New York Times.
Plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti, un texte d'opinion d'Annick Chalifour, paru le 17 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, est récemment rentré d'une mission diplomatique à Port-au-Prince dans le but de se pencher sur la question sécuritaire en Haïti et tenter de tracer la voie vers des élections plus d'un an après l'assassinat du président, en juillet 2021. Outre l'envoi de matériel du Canada pour renforcer les capacités de la police nationale haïtienne et de sanctions à l'égard d'élites haïtiennes, aucun plan d'action concret n'a encore été évoqué, visant spécifiquement la mise en œuvre d'élections démocratiques requises en Haïti. Entre-temps, malgré l'insécurité chronique, la précarité économique aggravée, des directeurs d'école, professeurs et parents, partout en Haïti, se réunissent pour étudier la possibilité de rouvrir les écoles. Après avoir essayé en vain plusieurs fois la réouverture des classes, certaines écoles se lancent très timidement dans certains endroits moins rouges, considérés moins à risque. Voici le poignant témoignage d'un directeur d'école basé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, partenaire de l'organisme torontois Perspective Entraide Humanitaire, engagé dans l'appui à l'éducation en Haïti depuis sa fondation en 2002. Notre interlocuteur partage son point de vue dans l'anonymat pour des raisons de sécurité. Appauvri par l'insécurité. La crise sociopolitique secouant Haïti, particulièrement aggravée depuis ces derniers mois, détruit la faible économie haïtienne. Les principaux acteurs de la classe moyenne ferment leurs entreprises pour éviter qu'ils soient totalement appauvris par l'insécurité, notamment par le kidnapping. Les autres vendent leurs biens pour se rendre à l'étranger. Les uns doivent faire des efforts et accepter des humiliations, en particulier en République dominicaine, tentant de commencer une sorte de nouvelle vie sous les menaces d'expulsion des autorités dominicaines. Malgré les hauts risques de mort, beaucoup de pauvres traversent des zones de non-droit pour amener leurs enfants dans des villes de province ou à la campagne. Contexte de misère. Certains se font violer, piller, humilier. Ils arrivent dénudés chez des parents qui déjà triment dans la misère. D'autres échouent. Généralement, ceux qui restent, survivant dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et plusieurs autres villes à risque, n'ont quasiment rien. C'est dans ce contexte économique que les écoles essaient de rouvrir leurs portes. Les premières conséquences sont déjà graves. Conflits entre les parents n'ayant pas d'argent pour les frais de scolarité de leurs enfants et les directeurs qui ne sont pas en mesure d'accueillir les élèves ni payer les professeurs. Incapacité des élèves de suivre des cours car ils n'ont pas de nourriture, ni de matériel scolaire, ni de moyens pour payer le transport. Terrorisme interne. Les bandits continuent à étendre leur territoire, tuent et brûlent des gens, kidnappent, volent des véhicules, des marchandises, font des concerts de tirs nourris avec des armes de guerre, ce qui a des impacts négatifs sur la réouverture des classes. Les élèves, les professeurs et les parents sont traumatisés. Dans certaines zones, on entend des tirs chaque jour faisant peur aux gens. Des bandits rançonnent des directeurs. Des directeurs d'école reçoivent des lettres de menaces ou taxes à payer. Les écoles sont prises en sandwich, d'une part menacées par le phénomène de l'insécurité généralisée et d'autre part utilisées par les leaders politiques pour faire passer leurs revendications. Tout cela crée une psychose de peur qui perturbe le processus de réouverture des classes. Précarité économique. La situation des familles vivant au sein des bidonvilles, créées aux alentours de Port-au-Prince à la suite du tremblement de terre de janvier 2010, est particulièrement alarmante. Ces gens ayant tout reçu de la part d'organisations non gouvernementales, ONG à l'époque, doivent encore de multiples frais de scolarité. On les garde quand même. L'objectif général étant de permettre aux enfants pauvres d'avoir accès à une éducation de qualité. Mais aujourd'hui, la situation empire. L'aide des ONG n'existe plus, alors que les gens restent avec la même mentalité de dépendance. Ce problème continue de susciter de grandes discussions entre les parents qui n'ont pas d'argent, les professeurs qui souffrent depuis des mois, les responsables ne recevant rien des parents, ne pouvant pas aider les professeurs à reprendre le travail ni à recevoir leur salaire mensuel. Transport public à haut risque. Une station d'autobus, sise à côté d'un sous-commissariat de police, est devenue la pire localisation pour se véhiculer vers certaines écoles situées dans la région de Port-au-Prince. Cette station est aujourd'hui la proie des bandits volant des camions de marchandises. Le sous-commissariat représente leur ennemi et cible d'attaque. Quand les bandits volent un camion, ils lancent plusieurs projectiles pour faire déguerpir les gens qui occupent les rues. La police tire aussi pour les repousser. Cette pluie de tirs incessants terrorise tout le monde. Les parents, les professeurs, les élèves sont traumatisés. Ils ont peur de se rendre aux écoles de la zone en raison de leur situation géographique. Sécurité, finances, soutien psychosocial. Pour rouvrir les portes des écoles, une aide au niveau de la sécurité, de la finance et de l'accompagnement psychologique se révèle essentielle. Les directeurs d'école des zones défavorisées de Port-au-Prince ont récemment envoyé une pétition au ministre de l'Éducation pour demander un soutien. Aucune réponse à date. Cette lettre est sûrement dans un tiroir ou dans la poubelle, selon notre interlocuteur. Ce gouvernement a tellement d'autres priorités. C'était Plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti, un texte d'opinion d'Annick Chalifour, paru le 17 décembre 2022 dans Le Nouvelliste.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Hélène Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.